tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le monde a-t-il changé depuis les révélations d'Edward Snowden? Alors que Mémoire vivre, son autobiographie, celle du lanceur d'alerte, paraît, lui publie l'utopie déchue. Le cofondateur de la Quadrature du Net, sociologue et militant activiste, comme il dit, Félix Tréguet, sera l'invité de la deuxième partie de la grande table. Mais d'abord, Alain Françon, premier Molière, pour celui qui en a déjà reçu trois, pour Bond, pour Tchekhov ou encore pour Qui a peur de Virginia Woolf d'Albi. Depuis les années 70 qu'il met en scène, jamais il n'avait adapté Molière. C'est donc chose faite avec ce misanthrope créé au Théâtre de Carouge en Suisse et qui revient maintenant à Paris avec le Théâtre de la Ville pour une série de représentations données jusqu'au 12 octobre. Notre invité, le metteur en scène, tout de suite jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Pas de femme savante, pas de tartuffe, pas de malade imaginaire, mais un misanthrope toujours aussi bougon, toujours aussi prompt à refuser les hypocrisies de la vie en société, les faux-semblants. Mais pouvons-nous vivre sans? Bonjour Alain Françon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans son jusqu'au boutisme, son refus de céder à la compromission, Alceste incarne à vos yeux une forme de pureté que vous jugeriez respectable.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais en fait, il a en face Philinte. Je veux dire, il y a l'opposition rhétorique entre les deux. Mais c'est complexe parce que je pense que l'auteur lui-même, il y a chez Alceste une misanthropie qui est constitutive, donc la bile noire, comme on disait à l'époque. Et puis de l'autre côté, une misanthropie qui est réactive, donc qui lui permet de faire la critique sociale. Donc de cet absolutisme qui est en train de se faire. Et c'est en ça, si je réponds à votre question, que je trouve respectable la critique sociale qui est à l'intérieur.
Et donc le personnage peut-être d'Alceste qui nous fait quand même ouvrir les yeux sur ces mauvaises mœurs qui pouvaient être en cours à l'époque où l'esprit de cour régnait. Reste que cette intransigeance ne lui offre à lui aucun répit, courroux contre les mœurs du temps. Voilà ce qui le travaille, haine conçue contre la nature humaine tout entière. Voilà ce qu'il proclame, on l'écoute.
Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien concret à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage.
Alceste, Gilles Privat, qui l'incarne dans cette pièce que vous mettez en scène, Alain Françon. Dans ses écrits sur le théâtre, le dramaturge Michel Vinavert dit préférer travailler avec des metteurs en scène comme vous, qui laissent les faits se poser plutôt que l'imposer, qui préfère aborder un texte comme on aborderait un endroit inexploré, cherchant à en discerner les couleurs et les reliefs. Vous avez beaucoup travaillé ensemble. Vous avez du coup, est-ce qu'on peut dire, interprété, exploré, comme il le dit, découvert dans ce misanthrope de Molière, un endroit, un territoire qui restait inexploré pour vous?
Je ne sais pas si... Non, je ne pourrais pas dire que j'ai découvert un territoire inexploré, mais il me semble que... À force, je connais mal cet auteur, donc j'étais obligé de travailler beaucoup, de me documenter énormément, et pendant un an un peu avant. Et donc, j'ai pas trouvé de territoire inexploré, mais il y a de telles conventions de représentation. Si je retrouvais dans la mémoire le spectacle que j'ai vu du misanthrope, Donc j'ai essayé plutôt de... C'est difficile de fermer les yeux sur tout ce que j'avais vu, et puis d'essayer de rentrer dans le texte vraiment, quoi. Mais rentrer dans le texte non pas en ayant une vue en surplomb, en disant « voilà, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que c'est ». C'est plutôt en disant « je ne sais rien, mais je vais essayer de tout de comprendre au fur et à mesure et instant par instant ». Ce qui fait que, avec les acteurs, je veux dire, souvent on travaille sur juste l'instant. Et dans l'instant, il y a toutes les contradictions possibles. Donc il ne peut pas y avoir de vision surplomb qui voudrait dire que, par exemple, Alceste, c'est ça, que Arsinoé, c'est ça. En fait, c'est ces traditions de représentation qui sont absolument insupportables, parce que je ne sais pas le nombre de fois où j'ai vu Arsinoé jouer comme une espèce de prude, un peu sur le retour, un peu, voilà, ou je ne sais pas, ou Célimène comme une coquette, ou par exemple... Finette simplement comme un faire-valoir d'Alceste, alors que par exemple la notion d'honnête homme au XVIIe, je veux dire aujourd'hui évidemment ça a disparu, je veux dire, mais c'était pas rien, c'était pas de la compromission, c'était pas du compromis, c'était une vraie, un véritable équilibre, je veux dire, comme tout l'art du XVIIe d'ailleurs, c'était l'art du juste milieu, mais dans le vrai sens du terme.
Et vous avez dit le mot juste, et c'est la suite presque de la réflexion de Michel Vinaver à ce propos. Il dit qu'une pièce de théâtre est grosse déjà d'un nombre illimité de mises en scène possibles. Et vous dites pas autre chose en parlant d'abord de toutes ces mises en scène qui vous restaient en tête du misanthrope que vous aviez pu voir auparavant. Mais il dit qu'aucune n'est la mise en scène juste. Il y a une façon juste d'aborder un texte seulement et de le porter à la scène, et c'est cette façon qui compte. Ce qui montre aussi la différence entre le texte et la mise en scène, hein, cet écart, aller chercher dans le texte plutôt que dans les représentations et les visions qu'on a pu en avoir. Pour offrir une lecture propre, c'est aussi ça, l'envie, oui, que vous aviez à travers ce misanthrope.
Oui, mais aussi il y a une chose qu'on partageait souvent avec Michel, parce que quand j'allais voir des spectacles avec lui, je le voyais fermer les yeux et des fois je me disais... J'avais honte, je croyais qu'il dormait, en fait. Mais pas du tout, il fermait les yeux pour mieux entendre. Et je pense qu'il était beaucoup plus intéressé par le sonore que par le visuel. Et c'est vrai que quand je travaille, je veux dire, bon là c'est des alexandrins, mais même quand c'est Tchekhov, quand c'est Bond, je veux dire, je suis très sensible prosodiquement à la nature du texte, et donc je suis aussi, moi, très sensible au sonore, et puis, je sais pas, ça me fait penser à Kafka qui dit quand le mot n'est pas juste, il séduit, mais quand il est juste, il conduit. Je trouve que c'est ça la différence qu'il faut faire dans un spectacle.
Et vous aimez, vous, cette musique des alexandrins, cette langue cousue main de Molière? Vous l'avez lu d'abord à haute voix, ce texte, pour vous-même?
Oui, effectivement, je l'ai lu plusieurs fois pour moi. Je connaissais les règles, enfin je les connaissais, puis je les ai revues un peu. Mais
parce qu'il y a des règles particulières.
Ouais, mais je trouve que c'est assez passionnant, parce que tout à coup, avec les acteurs, on a eu l'impression d'être légèrement plus intelligent que quand on est dans un langage plus banalisé. Et puis c'est quand même un art très... très précis, mais très difficile de faire correspondre la syntaxe et la métrique. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'arrive pas à ce qu'elles s'épousent vraiment, soit c'est un côté musique ou ronronnement du vers qui se produit, ou au contraire, c'est un sens qui est appuyé, mais alors tout à coup, on appuie les mots, on les frappe, et tout à coup, la beauté de l'alexandrin, enfin, si on peut parler de beauté, s'en va. Donc il faut vraiment que... Si la syntaxe c'est vraiment le sens et la métrique plutôt le rythme, il faut vraiment faire en sorte que les deux s'épousent parfaitement, ce qui est, c'est un art.
Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Philinte, qui donne du coup la réplique à Alceste dans la pièce? Est-ce qu'il est un peu le point d'équilibre?
Je pense que oui. Enfin, je pense que pour l'auteur, pour avoir lu vraiment beaucoup de choses. Autour de la pièce, et je pense que oui, mais si vous voulez, il a mauvaise réputation, Philinte, depuis le texte de Rousseau dans la lettre à D'Alembert. Philinte, il lui a réglé son compte une fois pour toutes. Après, pendant la Révolution française, il y a un mauvais poète qui s'appelle Fabre d'Églantine qui a écrit une pièce qui s'appelle Philinte, dans lequel il lui règle son compte aussi. Puis après, tous les romantiques ont toujours dit des choses insupportables sur Philinte. Et évidemment, cet idéal d'honnête homme, il est... Mais honnête homme, ça veut dire qu'au XVIIe, c'est au siècle des Lumières qu'on sait qu'on peut changer le monde. Au XVIIe, on n'a pas l'idée de changer le monde. Et donc, je veux dire, l'idéal, c'est un idéal de... Mais c'est un idéal à la fois sceptique, à la fois... Mais il n'est pas de compromission, ce que je disais tout à l'heure, pas de compromis. Au contraire, c'est une véritable philosophie, c'est une véritable éthique... d'essayer de trouver ce qu'on... J'aime pas le mot, parce qu'aujourd'hui, il ne veut rien dire, mais le juste milieu.
Mais l'extrême, l'autre extrême, c'est Oronte. Hein. C'est Oronte, l'homme à la veste, celui qui s'écoute et se regarde parler. Mm-hmm. Ouais. Là, c'est l'autre extrême.
Oui, c'est l'autre extrême, mais c'est aussi ce qui m'a intéressé dans la pièce, c'est que j'aurais pas pu monter les pièces de Molière où il y a la bourgeoisie commerçante ou la famille ou les histoires de cassettes ou de poumons ou de petits chats ou tout ça. Je veux dire,
vous n'aimez pas les petits chats?
Si, je les aime. Non, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aurais pas pu, je saurais pas faire. Ici, ce qui m'intéressait plus, c'était qu'il y avait une classe. C'est même pas une classe. D'ailleurs, c'est pas la noblesse. C'est juste les plus grands les plus proches du pouvoir. Et ce qui m'intéressait, pas par analogie, je veux pas parler d'aujourd'hui à travers ça, mais on peut pas ne pas penser que cet entre-soi-là qui est sur scène ressemble à des choses qu'on connaît, quoi.
C'est impossible de ne pas y penser, effectivement. Hein. Et est-ce qu'on en est vraiment sorti de cet esprit de cour? Quand vous regardez le monde qui nous entoure, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on continue à vivre dans un système qui est régi en partie par cette courtisanerie que vous mettez en scène aussi à travers la scénographie avec cette pièce de salon, cette pièce antichambre du pouvoir qui sert de décor à la pièce? C'est Dominique de Villepin qui a écrit un livre sur cela, sur l'esprit de cour, cette malédiction française qui perdure encore aujourd'hui, selon lui.
Ah oui.
Dans tous les milieux.
Ah bon, je savais pas. Mais...
La politique, mais aussi peut-être la culture. Non, vous avez le sentiment de le vivre aussi ou de le ressentir, Alain Françon?
Ah ben oui, bien sûr. Oui.
Dans votre milieu.
Ça se retrouve dans tous les. Oui, ça se retrouve sur toutes les choses, y compris par exemple pour ce qui nous concerne sur les nominations, sur les choses comme ça. Enfin, je veux dire, l'entre-soi, ça marche. C'est pas particulier à ce.
Les nominations pour les récompenses, vous dites, ou. Ouais, c'est
oui,
ça.
Aussi,
cette
oui.
idée. Non?
Oui, aussi.
Vous parliez de quelle nomination? Ou pour les théâtres?
Non, pour les théâtres.
Oui, pour les scènes.
Bien sûr, pour les scènes. Oui.
Vous en êtes où d'ailleurs? C'était une question que j'aurais eu envie de vous poser, en espérant qu'elle n'est pas mal à droite, mais avoir un lieu ou pas, est-ce que c'est important aujourd'hui encore pour un metteur en scène? Vous avez dirigé le CDN de Lyon, puis celui de Savoie, puis dirigé pendant près de 15 ans le Théâtre de la Colline à Paris. Vous faites partie aujourd'hui de ces metteurs en scène sans scène fixe ou sans théâtre fixe. Ça vous offre une liberté nouvelle ou c'est quand même parfois plus difficile de travailler sans son théâtre, sans sa maison?
Non, je crois que je pouvais plus, et puis c'était normal, je trouve que je cède la place, enfin je veux dire, ça va, j'avais fait mon temps en ce qui concerne la direction d'une institution. Après derrière, ça veut pas dire que j'ai fini mon travail ou que donc je peux continuer. Je suis à la fois libre et puis en fait c'est très contingent parce qu'il faut trouver l'argent pour monter les spectacles, il faut trouver les coproductions, donc en fait je me retrouve comme quand j'avais 25 ou 30 ans et que je cherchais de l'argent et que j'allais voir les directeurs de théâtre pour leur dire là je voudrais monter ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, mais je trouve que c'est une oui c'est une grande liberté en fait, mais elle est un peu menacée pour le moment par des petits problèmes avec la direction du théâtre qui souhaiterait qu'on s'arrête un peu quoi, qu'on en a trop fait.
C'est vrai. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui justement de trouver des financements pour une pièce que quand vous aviez 20 ans?
Oui, absolument.
Les temps ont quand même vraiment changé.
Oui, je pense que sur les jeunes compagnies, les jeunes gens qui veulent commencer, je pense que c'est vraiment très très compliqué, très difficile quoi. Alors heureusement, il y a beaucoup de directeurs de centres dramatiques qui prennent des artistes associés. Donc par ce biais-là, il y a beaucoup de gens qui arrivent quand même à travailler, mais c'est très très complexe quoi.
Vous leur dites quoi à cette jeune génération?
Ouais, je leur dis, moi j'ai tout appris en faisant une compagnie, c'est-à-dire sans argent, sans rien, faites, et puis au bout d'un moment, il y a reconnaissance ou il n'y a pas reconnaissance, mais il faut faire quoi, je pense que c'est indispensable. D'ailleurs, quand on a créé le théâtre éclaté, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, je veux dire, on a eu de la chance, le premier spectacle, il avait été sélectionné au Festival de Nancy, au Festival des Nations, à la Sorbonne, donc ça va, tout le monde a parlé de nous, et l'année après, on a touché un peu d'argent de l'État, mais si on n'avait pas fait, il faut faire, et il faut faire avec rien. Je veux dire, un acteur qui monte sur un plateau, c'est déjà un événement.
Et il faut que ça le reste.
Ouais.
France Culture avec notre invité, le metteur en scène Alain Françon, à l'occasion de sa mise en scène du Misanthrope de Molière, pièce de 1666. Il est midi 16 et on va écouter un peu de musique. C'est Jeanne Chéral qui revient avec un nouvel album, le sixième, L'An 40, dans les bacs aujourd'hui.
De terre, rosée dorée, même l'hiver, juste à côté du château de ma mère. Les ronds s'envahissent la mare, et des batraciens goguenards viennent nourrir nos plus beaux cauchemars. On y vole, on y court, on y fait des tours et des tours, on voudrait en partir, on s'ennuie un peu. Faut bien dire, on est là, on attend, planté sur nos cannes de 8 ans, cheveux et bras au fer aux 80 ans. Oh, racine d'or, je me souviens de vous, des cailloux, les trésors et les gens tatoués debout. Oh, racine d'or, je
retour aux sources et affirmation de soi, c'est les racines d'or de Jeanne Chéral sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avec notre invité, le metteur en scène Alain Françon. Qu'est-ce qu'il y a d'Alceste en nous ? En 2013, Fabrice Lucchini jouait dans le film Alceste à bicyclette de Philippe Leguet. Écoutez comment il parle de ce personnage un peu raseur qu'il interprétait.
Pourquoi c'est intéressant Alceste ? Et Philin, c'est pas un devoir d'école, c'est qu'est-ce qu'il y a d'Alceste en nous ? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être Alceste ? Alceste, c'est de dire à ton rédacteur en chef, moi tu m'emmerdes, t'arraches, j'ai envie de te niquer moi. Ou alors être Philin, comment vas-tu ? Tu es content ? Tu as bien passé tes vacances du premier ? Donc, il y a en nous tous des résonances de sincérité et de mensonge. Et comme une société ne pourrait pas vivre avec Alceste, et elle ne peut vivre que par Philin, et que la connerie de mai 68, c'est d'avoir fait croire que c'était Alceste le personnage rousseauiste merveilleux. Non, Alceste est un raseur. Alceste est un raseur. L'intelligence est Philin. Pourquoi il est intelligent ? Parce qu'il dit la phrase la plus belle sur l'histoire de l'être humain. Il dit, je prends tout doucement les... Et il lui dit, à un moment, arrêtez, vous nous faites chier avec vos exigences. Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. Et il lui dit, à force de sagesse, on peut être blâmable. Il lui dit plein de trucs et puis à un moment il lui dit, je prends tout doucement les hommes comme ils sont, et c'est la plus belle de toutes, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font.
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Ils sont assez bien campés dans la bouche de Fabrice Lucchini, ces deux personnages, ce noir et ce gris, Alceste et Philinte. Hein. Et il a raison, Lucchini, on rêverait tous d'avoir cette presque pureté affichée par Alceste, mais il est impossible de vivre en société comme ça aujourd'hui.
Oui, mais je pense quand même que la critique que Molière s'était permise à travers Alceste est quand même très... Je n'aime pas la référence qu'il fait à 68, pardonnez-moi.
Oui. Défendez 68, allez-y sur les
pages. Mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens quand j'étais lycéen, je veux dire, les engueulades forcenées avec le prof... qui pensait qu'Alceste était en ridicule, et moi j'avais lu la lettre d'Alembert, et donc je me mettais en colère contre le prof en lui disant que non. Enfin, j'avais une vision complètement romantique d'Alceste. C'est vrai qu'avec le temps, aujourd'hui, Philinte m'intéresse énormément, donc d'une certaine manière, il a raison. C'est-à-dire que moi-même, en vieillissant, je comprends plus Philinte que...
Et du côté des femmes, parce que c'est aussi la grande réflexion qu'ouvre ce misanthrope de Molière, ces deux figures de femmes, et la principale qui est Célimène, mais on peut aussi parler de Dominique Valadier qui incarne Arsinoé, extraordinaire d'ambiguïté, vous diriez peut-être de complexité.
Oui.
Votre Célimène à vous l'avez pensé comment, votre Célimène?
J'ai essayé surtout
de pas en faire
une coquette, voilà. Enfin, je veux dire, donc d'en faire une femme, elle est veuve, libre. Et puis, je veux dire, dans ce changement, dans cette période d'incertitude, parce que c'est vraiment une période d'incertitude, ce passage entre une société féodale et puis la cour de Louis XIV. Donc, dans cette période d'incertitude et de nouveauté, il y a des gens qui peuvent le vivre d'une manière presque euphorique. Pourquoi pas? C'est possible. Et je trouve qu'elle est libre et qu'elle est prise dans ce vertige euphorique, qu'elle a une espèce de... Je trouve très fort cette liberté, cette utopie de ne pas vouloir s'engager tout en ménageant toutes les possibilités. Et c'est comme si son utopie, c'était de rester libre jusqu'au bout, tout en donnant les gages de... Mais ça, c'est évidemment, c'est l'époque, c'est le salon, c'est etc. Et je trouve ça plus intéressant que d'en faire vraiment la coquette ou la trop jeune fille. Je trouve pas ça. Et c'est vrai que quand on sort des schémas trop habituels, c'est vrai que la mise à plat de la pièce lui rend totalement sa complexité. Je crois que c'est très difficile, cette pièce, à dire sur quoi elle joue, sur l'amour, sur le social, sur... c'est très très complexe. Je veux dire, ce qu'on disait tout à l'heure, Philinte, Alceste... Il y a un personnage dont on parle pas, que moi je trouve essentiel, c'est Eliante. Parce qu'Eliante, c'est Philinte. S'il y a un couple s'il y a un couple qui existe à la fin, c'est Philinte-Eliante. C'est comme dans la pièce de Corneille, La Place Royale. C'est le deuxième couple, celui qui est le moins en vue, celui qui est, qui sont pas les personnages de premier plan, qui finalement, trouve une issue, oui. Si on peut dire, quoi.
C'est Vitesse qui avait mis en pièce le misanthrope. C'est pas faux. Il a mis en scène surtout le misanthrope de Molière en 78, puis en 88, qui disait que Célimène, à ses yeux, était en quête de dignité. Elle cherche aussi sa liberté, son combat pour son indépendance. Il trouve particulièrement savoureux dans cette pièce, ce texte de Molière, la manière dont chacun des personnages essaye d'être lui-même. Avec Antoine Vitesse, il y avait déjà Dominique Valadier qui jouait Eliante, votre héroïne à vous. Alain Françon, c'était en 78. Et Dominique Valadier et vous, c'est une longue histoire. Première collaboration en 84-85, près de 35 spectacles ensemble, Ibsen, Bond, Tchekhov, Feydeau, Boto-Strauss et maintenant Molière. Dominique Valadier, parlant de votre manière à vous d'entrer dans le texte, c'était au tour et au moment de « Toujours la tempête » de Peter Handke.
J'ai été très étonnée de le voir mettre en scène Toujours la tempête de Handke avec cette disponibilité sensible, toujours cette rigueur absolument extraordinaire de la répétition dans le temps où l'acteur est dans un certain confort parce que il est complètement cadré dans un emploi du temps extrêmement précis. Et en même temps, il y a eu une partie de la répétition, disons à peu près à la moitié des répétitions, où l'acteur se sent totalement libre, il a l'impression de ne pas être dirigé. Et là, je l'ai vu chorégraphier des corps, jouer avec des distances, avec des lumières. Je l'ai vu littéralement fondre devant ce texte de ce poète et entrer là-dedans et être complètement dedans.
Être dedans, on imagine un peu que quand vous entamez un projet, il est presque impossible de vous parler d'autre chose, Alain Françon, là, en l'espèce que vous avez, depuis quelques mois, mangé Molière, dormi Molière, rêvé Molière. C'est le cas?
Oui, c'est le cas, oui, c'est le cas, mais plutôt de manière antécédente, c'est-à-dire qu'en fait, je prépare énormément, je travaille énormément, et puis après, ce que j'essaye, c'est, j'appelle ça perdre le fil, c'est-à-dire de pas me souvenir de tout ce que j'ai lu ou de tout ce que j'ai pu penser au moment où je suis en présence physique des acteurs, quoi. Alors évidemment, c'est, j'y arrive pas. On perd pas le fil de ce qu'on a mis si longtemps à comprendre, mais il le faut, parce que souvent un acteur tout à coup a, je sais pas, un geste, quelque chose qui fait que tout à coup, ça nous permet de comprendre encore davantage ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, le théâtre, ça ne se joue que sur l'instant. Ce que je disais tout à l'heure, je crois que sur le fait que l'instant contient toutes les contradictions, il y a comme, c'est formidable pour les acteurs, parce que je veux dire, on peut jouer une chose et son contraire dans un personnage. C'est-à-dire que même l'idée de personnage, il faut la virer, il faut appeler ça des figures, et puis les figures, c'est une espèce de chose informe, et puis qui, instant par instant, prend forme, se constitue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité psychologique dans les personnes, dans les figures, il n'y a pas tous ces trucs-là, qui sont une manière d'ailleurs qu'on enseigne au théâtre. Je l'ai vu enseigner ces choses-là, qui sont profondément, pour moi, néfastes sur le travail d'acteur. C'est très très important d'avoir toujours cette idée que parce que dans l'instant aussi, je veux dire, je sais même plus qui j'étais, je sais pas qui je suis encore, quoi. C'est ça qui me semble fondamental, quoi. Donc c'est une solitude aussi.
Ouais. Enfin, c'est Handke qui disait justement que pour lui, c'est pas normal d'écrire, que quand il écrit, il se sent un peu comme un criminel qui aurait trouvé le trou pour commettre ses crimes. Et en même temps, dans ce trou, je me sens bien dans mon droit. Est-ce que le théâtre, pour vous, c'est aussi un peu ce trou dans lequel vous pouvez faire ce qu'il vous plaît, vous sentir vous-même?
Je vous remercie de dire ça, parce que ça, oui, ça me plairait énormément que ce soit comme ça.
Mais c'est pas si simple. Quel est l'auteur, Alain Françon, que vous n'aimiez pas hier, comme Molière, dont vous avez dit je l'aimais pas, j'ai mis du temps à l'apprécier, comme Tchekhov, et donc que vous montrez probablement demain? Shakespeare?
Si j'ose, oui. Mais j'ose toujours pas, quoi. Mais j'ose toujours pas. Mais c'est vrai que... Ou alors les Grecs, c'est-à-dire que juste avant de prendre la colline, je voulais monter l'Orestie, j'étais prêt, ça y était, ça se faisait. Puis on m'a proposé la colline, donc je pouvais pas. Le cahier des charges était sur le répertoire contemporain, donc je l'ai pas fait. Et je rêve de faire le Roi Lear, mais peut-être je le ferai jamais.
Voilà ce qu'il vous reste à trouver. Et le Roi Lear, on imagine que pour vous, c'est la pièce singulière aussi dans le répertoire de Shakespeare, ouais. Comme ce Misanthrope l'était pour Molière. Merci beaucoup à vous, Alain Françon. On peut voir votre Misanthrope en ce moment à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville. C'est jusqu'au 12 octobre avec toute votre famille d'acteurs. Merci.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.